Radio Cultura. .eus.
On imagine qu'il y a eu un avant l'enfant, les sortilèges, imaginaire naturellement, de l'enfant, qui a fait souffrir certainement toutes les personnes et tous les animaux et tous les objets qui sont autour de lui pendant des mois. C'est assez cruel quand même, et puis effectivement les choses risquent, je ne veux pas dévoiler, mais risquent de se retourner contre lui naturellement pendant l'enfant, les sortilèges. Bonjour, je suis Pierre Clément, je suis professeur au conservatoire Maurice Ravel, je suis pianiste, chef de chant, donc je m'occupe beaucoup des chanteurs naturellement et professeur de musique de chambre.
Donc je m'appelle Thomas Moreau, je suis un musicien, je fais différentes choses, du piano, de la direction de chœur, de la composition aussi un petit peu. Voilà, j'interviens dans différentes structures ici de la région et là je suis encore élève en classe de chant depuis 6 ans maintenant, donc je connais Pierre depuis 6 ans. Et dans ce spectacle-là, c'est l'enfant les sortilèges de Ravel, ben, je vais être chanteur avec un petit rôle, voilà.
Alors l'enfant et le sortilège, c'est une fantaisie lyrique, comme l'avait appelé Maurice Ravel, qui est une sorte de petit opéra en deux actes, d'une durée d'à peu près 50 minutes, et qui a été créé sur un texte de Colette, l'auteur français Gabriel Colette, il y a quasiment 100 ans. On peut dire que Maurice Ravel commençait vers les années 1920 à écrire ce sujet, et voilà, première création 1925. Donc on est presque au centenaire de la création de ce spectacle.
Ravel, je crois que déjà, on est tous d'accord pour dire que c'est sans doute l'un des plus grands, sinon le plus grand compositeur basque, le plus connu dans le monde, qui était profondément attaché au Pays Basque, qui était bascophone par sa mère. Enfin, c'est quelqu'un vraiment qui était enraciné ici, et c'est, je pense, dans le monde entier, le compositeur le plus connu et le plus joué du Pays Basque. Et concernant l'enfant et les sortilèges, comme l'a dit Pierre, c'est sur un texte de Colette, et ça fait beaucoup appel à l'imaginaire, au milieu, enfin, à l'environnement de l'enfant, au mystère de l'enfance. C'était un peu une gageure hein, d'écrire une pièce comme ça. Enfin, c'est assez extraordinaire ce qu'il a fait. On n'entre pas dans les détails, mais bon, il fait chanter des animaux, des arbres. C'est vraiment extraordinaire. Et on retrouve ben, tout son système d'écriture, en fait, son système harmonique très ouvert, sa manière vraiment d'utiliser des accords avec des notes étrangères, mais qui sonnent très, très clairement, qui ne sont pas du tout dissonants. Enfin, il avait vraiment son système à lui, Ravel, d'écriture et voilà, dans cette pièce il est présent du début à la fin et c'était vraiment son système, son propre système à tel point qu'il le partageait pas trop et on, voilà, quand je me souviens de cette histoire mais Ravel avait fait une tournée aux États-Unis et Gershwin lui avait demandé des cours de composition et Ravel l'avait dit non, je te donne pas de cours, je garde mon matériel bien à moi.
Ravel, moi je voudrais juste dire quelques mots avant l'immense compositeur naturellement, célèbrement mondial. Dire évidemment qu'il est né à 25 km d'ici, enfin il est né à Cibourg, donc on est en plus à la moitié quasiment de Saint-Sébastien, ça tombait très bien. Moi je voudrais juste dire quelques mots sur le personnage parce que j'adore sa personnalité. C'était quelqu'un qui était extrêmement secret, qui parlait pas beaucoup, qui était très mystérieux sauf avec ses amis, qui avait choisi volontairement dans ses années parisiennes, enfin toute la dernière période de sa vie, d'habiter à une quarantaine de kilomètres de Paris, c'est-à-dire suffisamment près pour avoir les avantages de la capitale, et suffisamment loin pour qu'on le laisse tranquille. Il voulait pas être à Paris même, il était à Montfort-l'Amaury. Et chaque fois qu'on voit quelques textes de lui, quelques lettres, ou quand on avait des gens qui parlaient de lui, ou quelques photos de lui, il est toujours extrêmement élégant, extrêmement raffiné, un peu distant, mais pas dans le sens méprisant. C'est quelqu'un qui est très proche, et on sentait que tout est contenu dans son imaginaire, totalement. Et c'est tout à fait ce personnage-là que je retrouve naturellement dans l'enfant et les sortilèges.
La thématique, c'est un enfant qui se comporte pas très bien avec ce qui l'entoure, que ce soit des objets ou des êtres vivants, et puis il y a une espèce de magie qui fait que ces objets, ces animaux, ces plantes vont un peu se retourner contre lui et voilà, lui faire gentiment payer ses maladresses, on va dire. La pièce est assez fantastique, enfin pas dans le sens science-fiction, mais dans le sens voilà, merveilleux, ça fait appel à des choses de l'imaginaire qui n'existent pas, qui ne sont pas possibles. Voilà, quelque chose de très fantaisiste. Je pense que c'est comme ça qu'on peut présenter cette pièce. Voilà, et compositionnellement, elle est tout à fait intéressante, et pour les chanteurs, c'est très exigeant. C'est quelque chose à chanter qui est, je vais pas dire difficile, mais exigeant. Voilà, il y a des intervalles assez complexes, il y a des harmonies complexes. On n'est pas dans une partition très simple qui coule toute seule, enfin en tout cas pour l'effort de chanter. Pour le chanteur, ça demande une grande concentration et aussi du travail, et puis oui, c'est une partition exigeante pour les chanteurs.
Je voudrais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Thomas, que l'enfant, en fait, il est même horriblement méchant.
Effectivement, il n'est pas très recommandable. Mais...
On imagine qu'il y a eu un avant l'enfant, les sortilèges imaginaires, naturellement, de l'enfant, qui a fait souffrir certainement toutes les personnes et tous les animaux et tous les objets qui sont autour de lui pendant des mois. C'est assez cruel, quand même. Et puis, effectivement, les choses risquent, je ne veux pas dévoiler, mais risquent de se retourner contre lui, naturellement, pendant l'enfant, les sortilèges. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, ce qui est sûr, c'est qu'on est à une période où Ravel est ouvert à toutes les influences. Et ce qu'on trouve particulièrement dans cette œuvre, c'est non seulement... une ouverture à l'époque complète. Par exemple, il y a un duo absolument merveilleux entre une tasse chinoise et une théière en Wedgwood noir, très exactement, théière anglaise, voilà, où Ravel utilise le ragtime. Donc on est juste après la Première Guerre mondiale, on sait très bien que les soldats américains ont importé en Europe avec leurs troupes un petit peu le jazz, les prémices du jazz, et on sent très bien que Ravel, qui ne parlait pas un mot d'anglais, a inventé un franglais, par exemple, pour illustrer cela. Donc on a complètement ça, mais je voulais dire aussi qu'il voyage aussi dans le temps, c'est-à-dire que dans cette œuvre, chaque scène peut être un rappel à une période différente, par exemple une scène très pastorale où on a clairement des influences du 18e siècle, un petit peu de Rameau. Voilà, chaque scène est totalement différente les unes des autres dans l'influence. Dans la scène entre l'arithmétique et les chiffres, par exemple, c'est une polka qui est utilisée. Et puis il y a une valse aussi dont on reconnaît l'influence qu'elle portait sur Ravel. Ce que je trouve absolument fabuleux dans cette partition, justement, c'est que quelque part, quand on connaît l'œuvre générale de Ravel, au-delà du boléro, naturellement, on a presque un parcours résumé de ses créations dans cette œuvre de l'enfant et sortilège. Moi, par exemple, je reconnais tout à fait les prémices de ces deux concertos pour piano à certains moments donnés. Il y a des accords, des manières d'écrire qui sont totalement ça. Et puis, il y a la valse, il y a plein de choses comme ça. Il y a la pavane pour l'enfant défunt, il y a un choral ou des choses comme ça. Donc, vraiment, ça nous permet de survoler de manière onirique et merveilleuse l'œuvre de Ravel. Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, les contre la mur.
Je veux rebondir sur Pierre, il y a vraiment dans l'écriture, il brasse toute la manière d'écrire depuis les débuts de la musique, puisqu'il va y avoir des choses très contemporaines, très complexes, avec des chromatismes, et puis aussi des passages où il va écrire en quintes successives pendant plusieurs mesures, ce qui se faisait peut-être au Moyen-Âge et encore, et qui s'est plus fait après, mais il n'a pas peur d'utiliser ces ressources-là qui sont très archaïques, et ça fonctionne très bien. Et puis bon, à la fin, il y a un très beau choral, qui est même, enfin, de toute la pièce, le seul vraiment gros moment polyphonique avec tout le monde, et c'est vraiment, c'est magnifique, c'est très aérien, très éthéré, c'est un très beau choral.
Il se rend très dans les détails pour nos auditeurs, trop compliqué, une des très rares fugues de Ravel est dans L'Enfant des Sortilèges, qui est une manière d'écrire la musique.
Oui, baroque, c'est d'origine baroque, oui.
Voilà, et il y en a une. Il n'en a fait que trois dans toute sa carrière, il y en a une à l'intérieur. Il faut dire que l'œuvre est particulièrement difficile. Déjà pour les instrumentistes, je me permets de dire quelque chose, on a la chance qu'un grand professeur et compositeur et arrangeur qui s'appelle Didier Puntos a fait une réduction de la partition qui normalement est pour orchestre, ce qui veut dire que seul un orchestre professionnel naturellement composé de 40 ou 50 musiciens minimum pourrait jouer cette œuvre. Et la réduction de Didier Puntos est absolument géniale pour nous tous, puisque elle est pour piano à quatre mains, avec violoncelle et flûte, ce qui permet à une équipe réduite, je vais dire, d'aborder ce genre d'œuvre plutôt que... Voilà. Je me suis permis très modestement d'ajouter une harpe, une percussion et un Celesta pour retrouver un peu les couleurs de Ravel. C'est une œuvre qui est extrêmement difficile, comme Thomas l'a dit, à la fois instrumentalement, musicalement, naturellement, et pour les chanteurs aussi, ce qui fait que la plupart du temps, cette œuvre, ce sont des opéras qui la font. Voilà, donc on s'est un peu risqué en tant que conservatoire, en étant conscient et responsable de ce que nous faisions. Mais c'est une œuvre qui, généralement, est réservée à des opéras. Donc, dans un conservatoire, je sais que c'est plus rare. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est assez rare. Chaque année, dans la classe de chant ou au conservatoire, on essaye de monter un spectacle. Alors, le gros avantage des chanteurs par rapport à tous les autres instrumentistes, et je suis pianiste, un avantage fabuleux, c'est que les instrumentistes, quelque part, ils sont un peu bloqués sur leur chaise. Donc, on fait des concerts magnifiques, évidemment, c'est pas du tout qualitatif ce que je dis. Hein. Mais le chanteur, faut pas oublier qu'au départ, le chanteur de lyrique, il est aussi forcément acteur ou actrice. Naturellement, c'est-à-dire qu'on peut aborder des opéras ou autre formulation comme ça, et donc il y a un jeu d'acteur à faire, et cette idée, moi je la trouve absolument géniale pour des étudiants, des élèves, de pouvoir se produire, non seulement en tant que musicien, mais aussi d'utiliser son corps dans l'espace. Voilà, donc on fait ça chaque année, et puis l'année dernière, je me suis dit à un moment donné, on s'appelle Conservatoire Maurice Ravel, pourquoi on ne regarderait pas un petit peu cette partition-là? Et comme je connais bien notre collègue de Saint-Sébastien, professeur au conservatoire Francisco Escudero, je lui ai proposé d'associer ses élèves à nos élèves de Bayonne, parce que la partition est tellement exigeante qu'on avait besoin de l'association des deux conservatoires. Il y a 21 rôles solistes, donc c'est absolument colossal sans compter les chœurs. Et donc je suis ravi de cette association avec nos amis basques de Donostia. Et puis c'est parti. Je voudrais juste rajouter un mot, si vous permettez, sur les musiciens qui jouent avec moi, puisque ce sont des collègues professionnels, ce sont des professeurs au conservatoire, qui ont accepté de se joindre au projet, et je les remercie infiniment parce qu'ils apportent une qualité extraordinaire. Et on a un petit orchestre de chambre formé qui, je crois, j'espère, fera le plaisir de tous.
Comme tout spectacle, ça demande du travail et de connaître son rôle, ses partitions, puis après toute la mise en scène, ce qu'on appelle la conduite, quoi, le conducteur, scène après scène, qui fait quoi, etc. Bon, ça c'est le travail normal quand on est chanteur et qu'on prépare un tel spectacle. C'est pas la première fois qu'on fait des spectacles sous la direction de Pierre, puisqu'il y en a eu quand même 3 ou 4 autres dans les années précédentes, du Handel, du Mozart, etc. Et ça change des autres années parce qu'on va être, non seulement il y a le conservatoire Escudero, la classe de chant du conservatoire Escudero, mais pour le conservatoire de Bayonne, il y a aussi les deux classes de chant, ce qu'on n'avait pas fait les années précédentes où chaque classe avait son propre parcours et son propre spectacle. Là, comme il y a deux professeurs de chant différents à Bayonne, c'est les deux classes aussi de chant de Bayonne qui sont réunies pour ce spectacle. Et donc, il va y avoir de la coordination, il va falloir que tout s'enchaîne bien et que chacun sache exactement ce qu'il doit faire. Plus il y a de monde, plus les interactions vont être nombreuses et donc plus le travail de précision va devoir être fourni, quoi. Voilà, on parle d'opéra, mais pour le profane, c'est quand même beaucoup moins complexe qu'un opéra, parce que c'est pas une intrigue à rallonge avec différentes choses et des personnages qui se croisent et se décroisent. Il y a vraiment une seule histoire, c'est celle de l'enfant et des choses qui l'entourent. Et donc, chaque scène est vraiment axée sur un personnage. Enfin, c'est assez simple à suivre. Je pense qu'on n'est pas dans un opéra très complexe avec énormément de ramifications dans les intrigues où parfois on peut oublier un peu qui a fait quoi. Là, je pense que la trame de la composition de Ravel est assez claire, en fait.
Moi, je dirais simplement qu'on connaisse ou pas la musique, surtout la musique classique ou autre, naturellement, mais vous avez conservé votre âme d'enfant, vous aimez rêver, voilà, tout simplement. C'est un opéra pour enfants et sur l'enfant. Donc il suffit d'avoir conservé ou de conserver en soi ce goût du merveilleux et de se laisser porter simplement par la musique et par la trame que nous a fait Ravel et puis Colette, naturellement, en tant qu'auteur. Voilà.
Thank you. mais en fait Colette l'avait écrit pour un enfant, son enfant, ou je sais pas, voilà, il y avait quelque chose aussi de très personnel au départ de la part de Colette. Elle avait écrit ce livret, ce texte, en pensant vraiment à un enfant en particulier. Alors je vais laisser la parole à Pierre, je sais plus si c'était sa fille ou nièce ou...
Oui, c'est ça, enfin, je veux pas rentrer dans des détails trop compliqués. Sa fille s'appelait Belgazou, et Colette a envoyé son texte à Ravel, figurez-vous, c'était en 1917. Ravel était du côté de Verdun, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il n'était pas en première ligne, mais il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Le texte s'est perdu. Donc, elle lui a renvoyé juste après la guerre. Et ce qu'il y a de très bien entre les deux auteurs, c'est quand on sait que Ravel était extrêmement attaché à sa mère. Alors, c'est un texte de Colette qui aussi était extrêmement attaché à sa mère. Donc, je pense qu'il y a une concomitance de pensée qui a dû faire tilt chez Ravel à un moment donné, après les années 1920, après au sortir de la guerre, et puis après quelques soucis santé qu'il a eu à cette époque, avec également le partage du goût pour les animaux. Alors c'est tout bête, mais Ravel, il adorait ses chats. Il avait deux chats chez moi, il les adorait. Donc, il y a des animaux partout. Faut pas oublier que 15 ans avant, Ravel, il a créé les histoires naturelles sur un texte de Jules Renard, qui sont aussi des histoires d'animaux dans une basse-cour. Il y a le paon, le cygne, voilà. Donc, c'est quelque chose qui lui parlait aussi naturellement. Donc, entre les deux auteurs, compositeur et puis l'auteur, il y avait une concomitance. Et je reviens quand même aussi, effectivement, sur cette histoire de mère qui est très importante. La mère de Ravel est décédée un peu avant ces années-là. Et ça a été un drame dans sa vie. Très 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 important. Et je pense que ce n'est pas anodin que la première scène de L'enfant et le sortilège, la mère intervient, et la dernière scène, et c'est le dernier mot, c'est le mot maman aussi. Alors, comme il y a eu des corrections entre les deux, on a quelques lettres entre Colette et Ravel d'échange. Le texte est de Colette au départ, mais on sait que Ravel est un peu intervenu aussi. Je crois que les deux ont trouvé parfaitement le chemin commun, et ça, c'est une des clés essentielles. C'est aussi un parcours initiatique de l'enfant qui est dans son monde qui, quand on est jeune, n'y est ni bon ni mauvais. Il est ce qu'il est au départ, on fait mal, on se rend pas compte qu'on fait mal. C'est ce qui est le cas de l'enfant les 4 premières minutes. Et puis après, pendant 45, évidemment, il lui arrive quelques petites choses, voilà. Et à la fin de son parcours initiatique, il va quand même se rendre compte que il y a du bon en lui, et il appelle sa mère et il dit un dernier mot, maman, sorte de grand voile de réconfort dessus. Je crois que c'est quelque chose de très important.
Moi, en ce qui concerne la pièce, sans aucun doute, je dirais le choral de fin. Enfin, cette écriture polyphonique a vraiment plusieurs voix, peut-être parfois 6. La pièce se termine sur le mot maman, et là, donc ce choral, c'est là où on reconnaît que l'enfant n'est pas mauvais, comme le disait Pierre, mais qu'il a fait l'expérience, qu'il a mûri et qu'il est devenu quelqu'un de bon. Et donc ce choral est écrit magnifiquement bien et sonne vraiment, c'est presque de la musique religieuse moderne, quoi. Pour moi, c'est musicalement le moment de la pièce, je crois, que je préfère et qui me touche le plus.
Moi, je vous dirais simplement, toi le cœur de la rose, toi le parfum de lys blanc, toi tes mains et ta couronne, tes yeux bleus et tes joyaux. Tu ne m'as laissé comme un rayon de lune qu'un cheveu d'or sur mon épaule, un cheveu d'or et les débris d'un rêve.
Radiocultura.eus